dans La Clé des Ondes, bienvenue dans notre plat de résistance. Il y a 4 ans, une grande partie des médias ne parlait que de ça, le soulèvement des Gilets jaunes. C'était le samedi 17 novembre 2018 et pour cet anniversaire, l'association Pourquoi Pas 33 organise un colloque de la valse des ronds-points au cahier de la colère qui a lieu aujourd'hui aux archives départementales de la Gironde et demain jeudi au musée d'Aquitaine. On a installé notre studio de la Clé des Ondes sur place et on va donner la parole aux acteurs et aux actrices de ce colloque dans notre émission jusqu'à 13h. Archivistes, chercheurs, chercheuses, gilets jaunes vont venir à nos micros. Avant ça, on commence par quelques infos en bref. Le maire écologiste de Bègles, Clément Rossignol-Puech, qui vient de prendre un arrêté d'interdiction de coupure d'énergie pour impayés sur sa commune. Il dénonce l'insuffisance du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie de l'État. Et puis une grève du côté des laboratoires de biologie qui a commencé lundi et qui se poursuit. La majorité des laboratoires de ville restent fermés. Puisque depuis un mois, un bras de fer oppose les biologistes libéraux au gouvernement autour du budget 2023 de la Sécurité sociale. Une ponction sur ce budget qui ne passe pas pour les biologistes, avec l'annonce de 250 millions d'euros d'économies à réaliser de gré ou de force dans leur secteur. Voilà, en bref, les infos du jour. Voilà, on est installé donc dans le hall des archives départementales de la Gironde et on a pour commencer trois invités, trois intervenantes. Merci à toutes les trois d'être là. Agnès Vatican, directrice des archives départementales de la Gironde. Bonjour à vous. Céline Guéry, conseillère départementale déléguée à la citoyenneté et à la laïcité, si je me trompe pas. Bonjour à vous également. Allez-y, prenez les micros toutes les trois. Et puis Magali Della Souda, politiste au centre Émile Durkheim. Alors peut-être pour commencer par le début, ces cahiers de doléances qui sont un des sujets principaux de cette rencontre. Refaire un petit peu l'histoire de ces cahiers, Agnès Vatican, qui avait été au départ initié par des maires ruraux. On a eu un maire, le maire de Blasimont ce matin, qui est venu parler de ça. Et puis, qui ont été repris dans le grand débat avec les cahiers de doléances dans toutes les communes. Peut-être comment vous, en tant que directrice des archives départementales, comment vous avez commencé à travailler, à avoir affaire à ces cahiers de doléances? Quand est-ce qu'ils sont arrivés à vous et dans quelles conditions, Agnès Vatican?
Alors, c'est arrivé très rapidement, en fait, puisque ces cahiers ont été clôturés le 20 février et ils ont été versés aux archives départementales le 5 avril par la préfecture.
Donc 2019.
2019, effectivement, par la préfecture de la Gironde qui les a fait centraliser d'abord au niveau des sous-préfectures, puis à la préfecture de la Gironde. Et alors la préfecture, elle verse ses archives, hein, comme tous les services, les administrations de l'État. Mais là, on est évidemment dans des temporalités un peu hors normes et avec des prescriptions très précises faites par à la fois le ministère de la Culture et le ministère de l'Intérieur pour que effectivement les cahiers originaux, donc j'insiste bien donc sur le format papier, soit versé donc dans les archives départementales à une échéance très brève et soit immédiatement mis à disposition du public. Donc pour nous, je dirais que on est dans nos missions, la collecte, le classement, la mise à disposition du public, c'est ce qu'on fait tous les jours ici aux archives. Mais ce qui était singulier, c'était évidemment ce type de document, voilà, qu'on ne collecte pas tous les jours, une expression, ouverte à tous. Et puis ce qui était très singulier, c'était aussi la temporalité, c'est-à-dire le fait que toutes ces opérations qui représentent quand même un gros volume en Gironde, puisqu'il y a plus de 360 cahiers en fait qui sont conservés, donc c'est énorme.
Et un cahier, c'est combien de pages?
Alors c'est très variable, parce que souvent donc il y a le nombre de pages et puis il y a le nombre de pages surtout écrites, voilà. Donc ça, Magali pourra peut-être le dire parce qu'il y a une analyse qui est menée par elle et son équipe. Mais effectivement, voilà, certaines communes, par exemple, n'ont pas versé leur cahier parce qu'il n'y avait aucune contribution. A contrario, d'autres en ont ouvert plusieurs et rempli plusieurs. Voilà. Donc ça, c'est très variable. En tout cas, au total, on a plus de 5 mètres d'archives qui conserve donc ces traces de ces contributions dans les cahiers et des contributions qui ont été ajoutées également par des gens qui ont écrit aux mairies ou envoyé des mails.
Cette célérité dont vous parliez, entre le moment où les cahiers ont été mis en place en mairie, fermés, puis envoyés, déposés aux archives, comment on l'explique? Pourquoi à ce moment-là, la préfecture de Gironde, en tout cas, se dit il faut que ça aille vite, il faut que ça sorte vite.
C'était des circulaires nationales. On était dans le tempo du grand débat qui était effectivement mené un peu tambour battant. Voilà. Il y avait des échéances sur la restitution des éléments du grand débat dont ces cahiers faisait partie et donc il fallait effectivement que toutes les opérations soient menées très rapidement. En tout cas, pour l'administration des archives et le ministère de la Culture, je pense que ce qui était très important, c'est qu'effectivement ces sources soient conservées dans des lieux appropriés et les archives départementales qui maillent tout le territoire, puisqu'il y en a un service dans chaque département, sont apparus évidemment comme le lieu idoine, d'autant plus qu'elles conservent également les cahiers de doléances de la Révolution française. Mmh. Donc il y avait certainement aussi un écho à ça, mais ce sont des sources qui sont aussi chez nous.
Mmh. Parce que je me souviens, au moment où vous avez commencé à travailler là-dessus, Magali, avec vos collègues sur ces cahiers de doléances, qu'il y avait une sorte d'interrogation de pourquoi tout ce matériau hyper riche et qui apporte sans doute un jour différent de celui dont la manière dont le grand débat et dont tout ça a été restitué par le gouvernement, pourquoi c'était rendu accessible si rapidement, comme si c'était étrange que l'État laisse tout ça d'accès aussi facile. Est-ce que
il y avait une volonté politique, enfin les circulaires qui sont prises, les deux circulaires de février et de mars sont très clairs sur les exigences de transparence, de restitution, d'accessibilité. Après il y a eu effectivement donc des copies de ces cahiers qui ont été faits en préfecture, qui sont partis vers la BNF, qui ont été numérisés. Ça a été un autre circuit, mais en tout cas les originaux, eux, sont conservés ici, et c'est ce qui permet aujourd'hui de mener des recherches, je dirais un peu plus de longue haleine, avec un tout autre tempo qui est celui du dépouillement, de la lecture, de l'analyse, à partir de là, je dirais tout est possible.
Alors justement, depuis 3 ans et demi maintenant qu'ils sont ici, qu'est-ce que vous faites de ces cahiers? Est-ce qu'on peut chacune peut venir les consulter? Est-ce qu'il y a des travaux? Alors on va parler de celui de Magali et de ses collègues, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est fait autour de ces cahiers de doléances qui sont ici aux archives Agnès Vatican?
Alors ils ont été communicables à partir d'avril 2019. Une partie n'est pas librement communicable, donc il faut bien distinguer les registres qui ont été ouverts en mairie, où les gens qui contribuaient étaient conscients que leur contribution, quelle qu'en soit la teneur, serait consultable par tous, donc cela reste librement communicable. Mais pour une autre partie, il s'agit de contributions écrites qui ont été adressées aux mairies, donc par des gens qui n'avaient pas forcément conscience qu'elles pourraient être lues de tous, et un certain nombre contiennent effectivement des données à caractère personnel. Donc la loi en France protège la vie privée avec un délai de communicabilité de 50 ans. Donc on a à peu près la moitié du corpus qui est librement communicable et l'autre moitié qui ne l'est pas ou qui nécessite d'obtenir une dérogation par rapport à un projet de recherche ou une consultation simple. Depuis, je dirais, le début, il y a eu des gens qui sont venus les consulter. Au début, on a eu un peu d'intérêt, notamment des journalistes qui sont venus, quelques gilets jaunes aussi qui sont venus voir s'ils étaient vraiment là. Et puis, on a eu rapidement des chercheurs, parce qu'il y a l'initiative autour de Magali Della Souda, Nicolas Patin, avec des gilets jaunes qui se sont mobilisés pour ce travail, mais pas que. On a eu aussi des chercheurs parisiens qui sont venus, notamment qui s'intéressaient justement à la différence entre les cahiers de doléances de la Révolution et les cahiers citoyens ou de doléances de 2019. Voilà, donc c'est une source évidemment qui prend sa place parmi les 75 kilomètres de fond qu'on conserve. Et là, donc, on a maintenant un doctorant qui commence aussi un travail de dépouillement. Ensuite, nous, c'est notre mission d'accueillir les chercheurs, tout citoyen qui souhaite accéder à des documents et de leur permettre, de leur donner les conditions de travail, d'études, de consultation, de reproduction, pour mener à bien leur projet, je dirais, quel qu'il soit.
Céline Guéry, peut-être pour le département, vous voulez dire un mot sur comment vous, en tant qu'élu et au niveau du département, vous pensez, vous comptez faire fructifier ce matériau qui est conservé ici, Céline Guéry.
Magali et Samuel, avec des yeux d'impatience parce que nous, effectivement, les cahiers étaient dans les archives départementales. Des groupes de citoyens nous ont interpellés en disant « Mais c'est chez vous, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui ? Vous êtes une collectivité décisionnaire sur vos politiques et sur vos compétences. Comment vous en saisissez ?» Et c'est vrai que donc il y avait ce premier travail qui mûrissait et qui grandissait, mais il nous semblait intéressant et important de pouvoir également le territorialiser. Alors le mot est souvent barbare, mais c'est tout du moins d'entendre ce que Samuel a dit ce matin très justement, qui dit quoi et où. Parce que le Médoc, le Cubzaguet ne sont pas les mêmes territoires que le Sud Gironde, que la métropole, que l'Entre-deux-Mers que j'aime beaucoup. Et on a besoin, nous aussi, dans le groupe de l'hémicycle, d'entendre ces voix différentes, parfois dissonantes, pour pouvoir adapter et tendre vers un arrêt de la Gironde à deux vitesses et du coup s'inspirer aussi de celles et ceux qui ont pris le temps d'écrire. Et ce matin, ça a été relevé. Et c'est vrai que c'est important de dire qu'il faut aussi... d'une part, leur rendre ces écrits en les valorisant, en les entendant, et respecter ces écrits-là aussi parce qu'ils existent et que il faut qu'ils soient entendus des politiques puisqu'ils s'adressaient aux élus. Alors, même si on n'est pas tout à fait les mêmes que le gouvernement, et je plaide pour ça, mais voilà, c'est important qu'on puisse se les approprier pour les faire ruisseler dans nos politiques publiques, autant au moins qu'on peut en tout cas.
Ça veut dire que vous allez lire les travaux de recherche qui vont sortir à la suite de ça, ce que vous-même vous allez pouvoir financer, lancer des travaux de recherche là-dessus, comment ça va se passer?
Alors Samuel qui est toujours derrière nous est donc un chercheur qui vient de rejoindre, enfin un doctorant qui vient de rejoindre les équipes, Agnès et Magali en parleront bien mieux que moi, mais qui en tout cas rejoint le département pour faire tout ce travail-là sur les trois années à venir, ce qui va nous permettre en fait de faire évoluer les schémas, les feuilles de route départementales avec cette analyse et ce regard vraiment territorialisé.
Vous parlez d'équipes, c'est quoi les équipes qui travaillent sur tout ça au total? J'ai l'impression, on entend qu'il y a plein de monde qui travaille sur tout ça. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Magali?
Du petit groupe qui a été monté à l'initiative de Marcel Guilambet, donc gilet jaune de la première heure et par ailleurs très engagé sur le RIC. On était 6 dans ce groupe. On était donc une chercheuse en sciences politiques, moi-même, un historien que j'avais convié dans cette démarche, Nicolas Patin, qui est ici à Bordeaux-Montaigne. Et puis, on a sollicité ponctuellement l'aide de Nathan Gabory, qui était ingénieur d'études dans le projet de recherche financé sur les gilets jaunes. Mais les doléances n'étaient pas prévues dans ce projet. C'est venu plus tard parce qu'il y avait l'urgence d'abord de collecter ici et maintenant et de faire les archives du mouvement social, les entretiens, les observations, faire passer les questionnaires. Donc ces doléances, moi je savais qu'elles étaient là, j'avais conscience qu'elles seraient conservées, qu'on pourrait y revenir. Et donc on a commencé par faire ce travail bénévolement avec ces gilets jaunes, Daniel et Gilbert et Stéphane, qui ont été d'une aide inestimable à la fois en termes de pour aider à faire la transcription, la numérisation, mais aussi pour Stéphane pour trouver une méthodologie qu'on puisse ensuite proposer au grand public pour que chacune et chacun puisse avoir la méthode scientifique et rigoureuse, mais en tant que citoyen, interroger ces corpus de données. Donc ça, c'était très intéressant.
Donc ça veut dire que sur le point de vue de la méthode, vous avez tout numérisé pour pouvoir utiliser des logiciels, c'est ça, et retrouver
oui,
des occurrences?
Oui, on a fait des photos, tout simplement. On a des espaces de stockage sur des infrastructures publiques qui garantissent, là encore, la protection des données. Hein. On est très attentif à tout ça. Et puis on a transcrit sur un tableau Excel en libre, enfin avec des logiciels libres, les doléances. Donc on restituera tout ça. Et ce qu'il faut souligner, c'est que cette recherche, donc, elle se fait bénévolement, elle se fait sans aucun soutien financier des grandes institutions de recherche. Le CNRS n'a pas soutenu ce projet. Et il a fallu, et c'est le conseil départemental qui est venu nous proposer d'accompagner ce travail et de nous donner les moyens, finalement, de ces ambitions, à la fois scientifiques, intellectuelles, mais aussi citoyennes. Et il faut vraiment saluer cette démarche parce que je dois avouer que les pouvoirs publics jusqu'à ce jour, à part le Conseil national de la fonction publique territoriale et ce Conseil départemental de Gironde, n'ont pas tellement voulu travailler avec la recherche publique, ce qui est un petit peu dommage.
On parle de la Gironde. Dans les autres départements, Agnès, vous disiez que c'était des circulaires nationales et donc le dépôt des archives s'était fait de la même manière dans tous les départements. Où ça en est dans les autres départements? Est-ce qu'il y a des travaux de recherche aussi qui se lancent là-dessus? Est-ce que, Magali, vous avez des infos sur ce que font vos collègues ailleurs?
Alors, la chance de l'organisation de ce colloque, c'est qu'on a enfin pu se rencontrer avec notamment Manon Pingam, avec qui on était en lien, et puis il devait y avoir Marion Bendinelli aussi, qui travaille toute seule. Hein. Ce sont deux chercheuses, mais qui sont seules, qui sont pas accompagnées ni par leur collectivité, ni par un labo de recherche, ni par une équipe de gilets jaunes pour faire ce travail. Et il y a aussi une documentariste qui travaille sur les cahiers de doléances dans le Nord, Hélène Desplanques, et qui, elle, a pu consulter différents fonds d'archives avec des spécificités, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, où on ne trouve pas du tout les mêmes préoccupations qu'ici en Gironde. Donc voilà, il y a des initiatives de ce type-là qui sont menées, qu'on espère pouvoir fédérer, peut-être dans les années qui viennent.
Alors justement, là, vous, pour les projets de recherche dont vous parliez, c'est quoi les enjeux, les questions que vous vous posez et auxquelles vous allez chercher à répondre? C'est quoi les problématiques, les enjeux de vos recherches sur ces matériaux?
Mais je peux commencer par celles du collectif, et puis ensuite Samuel développera sur ce qu'il va faire en lien avec le collectif pendant sa thèse, sous ma direction, celle d'Agnès Vatican et de Nicolas Patin. Donc nous, l'enjeu premier, c'était d'abord de répondre à la demande des gilets jaunes et de faire une enquête avec des gilets jaunes, par les gilets jaunes, pour les gilets jaunes en gros. Nous, on était là pour accompagner, mais c'était pas à nous de parler des doléances en premier chef. Et l'idée, c'était de voir ce qu'il y avait dans ces doléances. Moi, je m'attendais à ce qu'on trouve des choses relativement différentes de ce qui avait été exprimé dans le mouvement des gilets jaunes, parce que c'est pas les mêmes populations qui participent à ce type de dispositif et qu'il y a dans le mouvement social. Et en fait, on s'est rendu compte, avec la première analyse de 2000 doléances environ, qu'on avait des thèmes qui étaient très proches. Donc ça, c'est un des premiers résultats qu'on a menés. Et puis le deuxième objectif, c'était de verser tous ces résultats pour la campagne de la présidentielle et la campagne des législatives. Et donc on a écrit ensemble deux articles grand public pour faire connaître...
Dans le monde diplomatique notamment.
Dans le monde diplomatique et dans The Conversation, pour faire connaître les premiers résultats. Et puis maintenant, Samuel va prendre le relais avec nous et aussi de manière autonome.
Alors on remercie donc Agnès Vatican qui a quitté la table, et on salue Samuel Noguera qui a pris sa place. Bonjour Samuel, donc toi, ce projet, tu es doctorant, c'est ça?
Oui, bonjour.
Et parle-nous un peu donc de ce projet, de cette recherche que tu mènes et de cette thèse que tu fais sur les cahiers de doléances, c'est ça?
Oui, alors c'est ça, je viens de commencer une thèse. Alors Elle date de, il y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai commencé à 3 semaines, donc okay. Je suis vraiment aux prémices de ma recherche et de l'analyse du contenu de ces cahiers. En fait, l'objectif, c'est de, à la fois de poursuivre le travail qui a été initié par le collectif de citoyens et d'universitaires que Magali vient de présenter, donc de travailler sur le contenu des cahiers en tant que tel, pour savoir en gros. Qu'est-ce qui se dit dans ces cahiers, dans tous les cahiers du département de Gironde. Et dans un second temps, l'objectif, ça va être de comprendre qui dit quoi et où, c'est-à-dire de re-territorialiser entre guillemets les cahiers de doléances dans les territoires, pour comprendre les doléances de Bordeaux Métropole, est-ce que ce sont les mêmes que les doléances des territoires plus ruraux ou des zones périurbaines, et donc de faire un travail de géographie entre guillemets sur la territorialité de ces cahiers de doléances, et enfin de participer à une réflexion globale sur les dispositifs participatifs. Quels outils ont les citoyens à leur disposition pour s'exprimer, pour prendre la parole et pour bien interpeller les pouvoirs publics, et donc ces cahiers de doléances en font partie.
Peut-être sur les sujets, pour rentrer un peu quand même dans le concret de ce qu'il y a dedans, sur les thèmes qui sont évoqués, le premier travail, Magali, que vous avez fait, c'était notamment mettre en évidence les sujets qui ressortent le plus, les points de vue, les revendications principales. Est-ce que tu peux nous en dire de manière résumée ce qui ressortait de votre première étude?
On a fait ce qu'on appelle une analyse lexicométrique de l'ensemble des doléances, et où on va, repérer les mots qui sortent, et les mots en association avec d'autres ou en opposition à d'autres. Et à partir de là, on a établi, grâce à Stéphane Mestre, donc Gilet Jaune, et à Nathan Gabory, qui était ingénieur d'études, 10 classes de mots, 10 classes de doléances, auxquelles on a donné des noms, la première étant celle du pouvoir de vivre ou du pouvoir vivre de son travail, ou pouvoir vivre quand on est empêché de travailler par la vie, par la maladie, par la vieillesse, la retraite, par le handicap, ou tout simplement parce qu'on est dans un moment où on traverse une crise structurelle qui produit du chômage de masse. Et puis on a vu aussi deuxième thème qui revenait, c'était la question donc de la démocratie, enfin plutôt de la participation des citoyennes, des citoyens. Et on a pu décliner comme ça un ensemble de classes de mots, mais effectivement on n'est pas capable aujourd'hui de les localiser. Or nous, ce qui nous intéresserait, c'est vraiment de dire, est-ce que dans le Cubzaké on a les mêmes doléances et les mêmes demandes qui remontent? Est-ce que dans l'Entre-deux-Mers c'est autre chose? Qu'est-ce qu'on voit dans la métropole bordelaise, qui est la principale bénéficiaire de la politique publique de métropolisation voulue par la région, avec une fracture territoriale et des inégalités qui ont fortement augmenté, et dont la Gironde est un cas assez typique et emblématique. Et donc ça, c'est vraiment le travail de Samuel qui va permettre d'aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces doléances-là, elles recoupent très fortement les revendications des Gilets jaunes. Je ne l'ai pas mentionné, mais la question des mobilités revient également. Et on est dans un département où c'est un défi, avec cette longue langue du Médoc, où on a des défis en termes de mobilité à relever. Et les citoyennes, les citoyens, non seulement ont des doléances, mais ont aussi des propositions très concrètes. Et ça rejoint aussi les grands débats sur les décisions publiques d'aménagement décidées par en haut. Je pense à la LGV qui revient dans les doléances, au détriment des transports du quotidien qui font tant défaut aux habitantes et habitants de ce territoire.
Très bien. Un mot à ajouter peut-être, Samuel, sur ce travail et sur ce qui s'ouvre devant toi pour ces 3 prochaines années au moins.
Un travail de longue haleine, effectivement. Je suis là pour 3 ans au moins sur l'analyse de ces cahiers. Et oui, ce que j'ai à rajouter, c'est que ce qui est intéressant et aussi avec ce type de journée d'études, c'est qu'on est en discussion constante avec aussi les citoyens, les Gilets jaunes et en fait qui ont initié l'existence de ces cahiers. Et ce qui est important. Je pense pour les 3 années à venir, c'est que cette discussion elle continue et qu'on continue à échanger avec des collectifs de citoyens, avec des personnes qui sont mobilisées et qu'on essaie de voir un peu plus largement aussi ce qui se passe du côté des cahiers de doléances des autres départements pour essayer à terme, dans une logique un peu idéaliste, de voir ce qui se dit un peu sur tous les territoires en France. Pour initier une réflexion globale sur les revendications citoyennes.
Peut-être juste un mot sur qu'est-ce qui individuellement vous pousse à faire des recherches là-dessus. Magali, tu disais qu'il y avait tout aussi un pan bénévole de travail là-dessus de la part de personnes qui étaient aussi gilets jaunes. Toi, Nathan, qu'est-ce qui t'amène à travailler là-dessus? Samuel, pardon, qu'est-ce qui t'amène à travailler là-dessus? Et est-ce que parmi tes collègues à l'université, il y en a d'autres? Est-ce que c'est un sujet qui stimule aussi la curiosité et l'intérêt des jeunes chercheurs?
Oui, alors je pense qu'il y a un certain nombre de jeunes chercheurs qui sont intéressés par l'action collective, les mobilisations sociales. Ça a été mon cas en 2018 quand le mouvement des Gilets jaunes est survenu. J'ai travaillé sur le mouvement des Gilets jaunes pendant mes études en master, sur spécifiquement les groupes Facebook des Gilets jaunes. Et en fait, j'ai un intérêt pour la question des comportements citoyens, de comment on se politise, puis des mobilisations sociales dans un sens large. Et puis oui, c'est un sujet qui est un sujet d'intérêt qui est aussi partagé par des collègues jeunes chercheurs, parce que par exemple au Centre Émile Durkheim, on est plusieurs à travailler sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc sur différents aspects à chaque fois, mais oui, c'est un sujet d'intérêt pour beaucoup.
Très bien, merci Céline Guéry. Peut-être un mot de conclusion sur tout ça, ou sur peut-être ce que le département a déjà essayé de mettre en place suite à ces sujets dont Magali a parlé et qui ont émergé du mouvement des Gilets jaunes. Céline Guéry.
Oui, ça fait écho à ce que disait Magali, puisque dit Samuel aussi, c'est que sur les 2 premiers items qui ressortent, que sont
le droit, l'envie de vivre dans sa mobilité et puis la parole citoyenne, c'est quand même une question des politiques et des compétences obligatoires pour les départements.
à la fois sur des sujets de RSA, d'aide sociale, de politique pour des personnes en situation de handicap. Voilà, on est sur beaucoup de sujets qu'on recoupe et qu'on doit incarner. Et puis aussi des politiques volontaristes qu'on mène, qu'on tente de mener, en tout cas du mieux qu'on essaye de pouvoir faire. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est l'intention qu'on a, que sont l'investissement des citoyens dans la politique publique du département. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'attentes, d'envie et d'impatience sur tous ces travaux, parce que ça va forcément nous permettre de faire mieux et de faire avec. Et ça, c'est un but qu'on se fixe. Donc affaire à suivre.
Merci beaucoup à tous les trois. Donc Céline Guéry, conseillère départementale déléguée à la citoyenneté et à la laïcité, Magali Della Souda, politiste au Centre Émile Durkheim, et Samuel Noguera, doctorant donc sur ces sujets au Centre Émile Durkheim et aux archives départementales, si j'ai bien suivi. Merci à tous les trois. Merci à Agnès Vatican. On reste aux archives départementales jusqu'à 13h sur la Clé des Ondes dans le plat de résistance.
Bon, mais super, merci à vous.
T'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent ta putain de démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Oh Macron, ciao, Macron, ciao, Macron, ciao, ciao, ciao. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission. Rends l'argent aux Français, rends l'argent aux Français. Tu es le seul président à pécho sa prof de français. Rends l'argent aux Français, rends l'argent aux Français, rends l'argent aux Français. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent ta putain de démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission. Rends l'argent aux Français, rends l'argent aux Français, rends l'argent aux Français. Peinard avec ta vieille, tu t'en bats les steaks. Les gilets jaunes sont là. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent ta putain de démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Oh Macron, ciao, Macron, ciao, Macron, ciao, ciao, ciao. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Oh Macron, ciao, Macron, ciao, Macron, ciao, ciao, ciao. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Oh Macron, ciao, Macron, ciao, Macron, ciao, ciao, ciao. Tu t'appelles Macron, t'as une tête de con. Tous les Français veulent démission.
Et vous croyez que c'est pourquoi j'écris la résistance?
Et voilà, on est toujours sur la Clé des Ondes, dans le plat de résistance, jusqu'à 13h, en direct et en public aux archives départementales de la Gironde, pour ce colloque de la valse gilet jaune, de la valse des ronds-points au cahier de la colère. Et on continue en donnant la parole à des gilets jaunes cette fois. Patrick, Youf, Delphine Barraud qui nous rejoignent. Allez-y, prenez les micros. Et ben, on avait envie de vous entendre un peu aussi vous sur peut-être d'abord ces cahiers de doléances que vous en gardez comme souvenir et comment à l'époque vous aviez perçu ces cahiers. Est-ce que vous en étiez saisi? Est-ce que ça vous intéressait ou pas? Et maintenant, aujourd'hui qu'on est là, qu'est-ce que vous pensez de ce qui en a été fait, de ce qui est dit autour de ces cahiers de doléances? Patrick, Youf, pour commencer.
Alors moi personnellement, je suis pas allé au cahier de doléances parce que pour moi c'était de l'enfumage,
ouais,
de pur et simple, et que c'était uniquement pour faire taire la colère du moment. Par contre, ce qu'il est en ressort ce matin, c'est qu'il y a eu quand même un travail énorme de fait, quoi, et qui est très intéressant, qui va encore demander beaucoup de temps, quoi. Mmh. Et c'est de mettre à jour toutes ces revendications qui sont quand même assez proches des nôtres dès novembre 2018, quoi.
Oui, c'est ça, parce que du coup, j'imagine une partie des Gilets jaunes qui n'y sont pas allés en disant on boycotte, c'est de l'enfumage, comme tu dis, d'autres qui y sont allés, et au final, il n'y a peut-être pas tant de différence entre ce que les uns et les autres revendiquaient, ceux qui ont écrit, ceux qui n'ont pas écrit.
Voilà, tout à fait, ouais, très peu, quoi. Donc, voire même similaire, quoi. Mm. Donc, c'était pour montrer dans la situation où on était à l'époque, quoi. Oui, on est toujours, d'ailleurs.
Delphine, toi, sur ces cahiers de doléances, quel regard tu avais ?
Alors moi personnellement, moi j'y suis allée parce qu'effectivement je savais que c'était de l'enfumage, c'était pour nous calmer, pour nous faire rentrer et puis nous faire croire qu'on était enfin entendus. Donc j'ai joué le jeu, mais en tant que gilet jaune. Mmh. J'ai signé gilet jaune, j'ai mis les revendications gilet jaune parce que voilà, je me suis dit qu'effectivement on nous donnait la parole, pourquoi pas la prendre aussi à ce moment-là. Donc j'y suis allée avec mes convictions de gilet jaune. Voilà. Après c'est sûr que quand on apprend quelques années plus tard que qu'ils ont été directement des tables des mairies directement rangées aux archives, là on est encore un peu plus en colère, parce que même si on s'en doutait un peu, là c'est du concret et c'est pas juste vis-à-vis de la population de nous avoir berné comme ça.
En tout cas, voilà, aujourd'hui il y a cette utilisation qui peut en être faite, de revenir dedans, de voir qu'est-ce qui a été écrit, et c'est quand même quelque chose qui te semble important et qui peut faire avancer quelque chose, ou bien c'est une lubie d'universitaire?
Non, je pense que c'est un travail. Alors c'est une super initiative. Il faut que l'expérience se répète dans d'autres régions, dans d'autres villes. Il faut vraiment le travail que Magali et toute l'équipe font. C'est un super boulot, c'est une super initiative. Et non, au contraire, il faut continuer à tous les ouvrir. Il faut continuer à ce que ça reste pas silencieux. Et il faut continuer et ramener du monde pour finir de tout ouvrir et de tout dépouiller, parce qu'il faut le faire.
Alors peut-être parlons un peu de ce qui reste des Gilets jaunes. Là on est 4 ans après, pour vous c'est quoi, qu'est-ce qui reste de tout ça 4 ans après? Delphine, Patrick.
Je dis comme je dis souvent, même si ça s'est étiolé, on est toujours là, la preuve aujourd'hui. Et je veux dire, surtout, ce qui s'est passé pendant ces 4 ans, c'est qu'on a su tisser des liens forts. Et c'est pas parce qu'on ne nous voit plus, qu'on travaille pas. Au contraire, bien au contraire.
Et justement, vous avez beaucoup travaillé aussi à l'organisation de ce colloque.
Tout à fait, oui, tout à fait. Là, ça fait 6 mois qu'on est dessus. Et avec justement cette matinée, ça nous donne encore plus d'espoir et d'envie. Hein, je dirais de travailler sur ces cahiers de doléances avec le RIC de ce côté-là, quoi.
Delphine ?
Après, effectivement, là aujourd'hui, on est moins dans les rues, mais le mouvement il se construit différemment. Mmh. On fait des choses différentes, telles que l'opération RIC, parce que aujourd'hui la révolution, oui. Peut-être qu'on en passera par là, mais il y a aussi la construction et de changer la constitution, ça c'est important, et je pense que si on arrive à faire ça, automatiquement la parole reviendra au peuple et on pourra mieux gérer les choses. Et puis effectivement, l'organisation de ce colloque, c'est quelque chose de formidable que je n'aurais jamais pensé faire un jour. Travailler avec les archives départementales, travailler avec le département, le musée d'Aquitaine, c'est franchement quelque chose que dans la lutte du gilet jaune, c'est quelque chose. Voilà, on aura eu cette opportunité là, et en tout cas de faire connaître un petit peu aux gens qui ne l'ont peut-être pas vu ou perçu ce que nous on a pu vivre, comment on l'a vécu, et donc aujourd'hui. aujourd'hui, oui, la suite, c'est beaucoup plus dans la construction que dans la révolte dans la rue.
Voilà. En tout cas, oui, il y a peut-être une part de fierté, j'imagine, à être là aujourd'hui. Est-ce que ce mouvement que vous avez contribué à faire vivre, il se retrouve dans des instances officielles comme celle des archives départementales ?
Ah, complètement, complètement. Tu passes, enfin, on passe de gilets jaunes auxiliaires de vie à on intervient sur un colloque de deux jours dans des institutions dans lesquelles on n'était jamais rentré auparavant. Donc, oui. Bien sûr qu'il y a une petite fierté et en tout cas voilà, c'est pour moi je l'ai fait en tant qu'éducation populaire dans ce sens-là, c'est-à-dire que ceux qui ne savent pas sauront en tout cas par ce biais-là.
Patrick, alors ton micro ne marche pas, peut-être tu peux lui passer Delphine.
Alors une fierté bien sûr, effectivement comme le reprenait Delphine, c'est vrai que jamais n'aurais pensé que, mais ça montre aussi que je veux dire que le gilet jaune montre une autre image du gilet jaune. Que le gilet jaune, il réfléchit, il construit, il est capable de co-organiser. Et ça, c'est vachement important pour nous de montrer une autre image que les médias ont l'habitude de montrer sur l'image du gilet, quoi.
Alors, nous a rejoint Nathalie Loubert, qui est réalisatrice et qui a notamment réalisé le documentaire Quartier Général, qui sera projeté ce soir à l'Utopia à Bordeaux. C'est à 20h30. Bonjour Nathalie, vas-y, prends le micro orange.
Bonjour.
Alors, super film que nous, on avait pu voir cet été à Sainte-Foy-la-Grande pendant les Reclusiennes, qui est en fait une immersion au sein d'un collectif de gilets jaunes du côté de Montpon-Manestérol, donc à la frontière avec la Dordogne. Peut-être raconter d'abord comment ce film il est né et comment dès l'automne 2018, si je me trompe pas, ou début 2019, vous avez eu ce réflexe de prendre la caméra, d'aller sur le rond-point, sur le camp et de filmer ce qui se passait, Nathalie?
En fait, le réflexe a été d'abord d'aller sur le rond-point avec une pancarte « Rendez l'ISF ». En fait, on se sentait gilets jaunes et on espérait que les gens de notre classe sociale, entre guillemets, ou classe d'âge et de rejoindraient le mouvement. Malheureusement, ça s'est pas tellement produit, mais en tout cas, nous, on se sentait aussi gilets jaunes. Et du coup, on est allé d'abord, parce qu'on se sentait devoir être là aussi. Et puis, évidemment, comme je suis ici réalisatrice et mon mari est opérateur de prise de vue, et donc on était là ensemble, et ce qu'on a vu de cette parole qui s'échangeait sur ce rond-point nous a paru tellement intéressante qu'on s'est dit non mais on peut pas juste être là avec notre pancarte, il faut qu'on vienne avec notre caméra. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait. Bon, évidemment on a négocié avec eux la présence de cette caméra, parce que bon, eux ils nous voyaient arriver, ils savaient pas qui on était quand même plutôt urbain, classe moyenne éduquée, etc. On détonnait un petit peu dans le groupe, et donc forcément il y avait un peu de méfiance au départ. Et puis finalement on a réussi à se faire accepter très vite, et du coup les choses se sont enclenchées et on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à filmer, on n'a pas pu s'arrêter. Voilà, donc ça a duré 8 mois ou de façon plus ou moins régulière, mais quand même au début très régulière, on y était au moins 2 ou 3 jours par semaine sur le rond-point. Et puis au fur et à mesure que le mouvement s'est un peu installé dans la durée, on a ralenti un petit peu les jours, mais on a vécu cette aventure humaine avec eux, et c'est comme ça que le film est né.
Alors d'ailleurs, c'est une autre forme d'archivage, j'ai envie de dire, de filmer comme ça des échanges, des discussions, une vie quotidienne pendant 8 mois. Est-ce que vous avez eu l'idée de vous dire tous nos rushs, on va les filer aux archives?
Oui, au départ on l'a fait un peu comme ça, dans une démarche mémorielle, en se disant il faut que cette parole-là, elle soit enregistrée, que ces gens-là qui sont tellement mal vus par les médias, ou soit diabolisés, soit victimisés, nous ce qu'on voyait c'était complètement autre chose, c'était des gens qui étaient en train d'être acteurs de leur propre vie, qui étaient en train d'inventer des formes de lutte, qui connaissaient pas forcément, qui avaient pas la culture de la lutte comme moi j'ai pu l'avoir, puisque moi j'étais plutôt dans toutes les luttes sociales, de gauche, etc. Mais les gens qui étaient là n'avaient pas cette culture. Et donc, ils inventaient leur propre forme de lutte avec beaucoup d'inventivité, justement. Et donc, c'était assez beau à regarder. Et donc, voilà, on s'est dit que ça devait être archivé d'une manière ou d'une autre. Mais on ne savait pas si on aurait les moyens vraiment de faire un film, quoi. Donc, parce que ça coûte cher de faire un film. Mmh. Et du coup, une fois que ces images ont été tournées, que j'ai eu le temps de les regarder, etc., j'ai essayé d'écrire un film à partir de ces images. J'ai écrit un film. J'ai eu un petit peu d'aide du côté du département, de la région, mais j'ai pas trouvé vraiment de diffuseur et de financement autre que cela. Du coup, j'ai fait toute seule. Voilà, j'ai monté moi-même le film. Et là maintenant, ce que vous allez voir ce soir à l'Utopia, c'est une maquette. C'est-à-dire que le film doit encore être mixé et étalonné.
D'accord.
Il faut payer aussi les droits musicaux parce que les Gilets jaunes chantent beaucoup et malheureusement, on est obligé de payer les droits aux auteurs des chansons.
Eh oui. Même si c'est des remixes, réinterprétés, il faut payer l'auteur.
Donc, la maquette que vous allez voir ce soir à l'Utopia va me servir aussi parce que j'ai lancé une collecte sur un site qui s'appelle ProArti, qui est un site dédié aux collectes de produits culturels. Et donc, j'ai lancé une collecte pour pouvoir finir ce film, faire les finitions et qu'il puisse être vu dans les festivals, dans les salles de cinéma, etc., etc. Donc voilà, cette projection, elle va peut-être servir à ça aussi parce que la dernière qu'on avait fait à Sainte-Foy-la-Grande a eu pas mal de succès, donc voilà.
Alors justement sur ce travail de montage, de sélection, qu'est-ce qui a présidé à tes choix ou à vos choix dans ces 8 mois de rush? Comment vous avez sélectionné pour en faire un film de, je sais plus, une heure
90 minutes, ouais, minutes. Une heure et demie.
Avec quel angle, avec quel regard finalement vous avez choisi de montrer cette expérience et ce rond-point et ce groupe de Gilets jaunes de Montpont-Ménestérol, Nathalie Loubeyer?
Alors, il y a eu beaucoup de critères à ce choix. Évidemment, il y a des critères liés à la dramaturgie, puisque quand même, un film d'une heure et demie, pour soutenir l'attention du spectateur pendant une heure et demie, il faut qu'il y ait des choses qui se passent, des événements, des rebondissements. Et donc, forcément, rendre compte un petit peu de toutes ces étapes qu'ils ont traversées, parce qu'ils ont eu des démêlés avec la police, des démêlés avec la justice, avec des angoisses, Heureusement, ils ont trouvé un bon avocat, mais enfin voilà. Donc l'idée, c'était de construire une vraie histoire pour que ça soit construit, faire la place aussi à tous les personnages, puisque c'est quand même le portrait d'un groupe. L'idée, c'était de pouvoir donner la parole un peu à chacun, en tout cas chacun de ceux qui s'étaient exprimés, pour que chacune de ces personnalités émerge dans le film. Et puis après, il y avait des motifs. Ce motif du bras de fer entre ce peuple des ronds-points et la figure honni de Macron. Ils ont regardé très souvent les allocutions de Macron pendant tout le mouvement. Il y a des motifs comme ça qui sont ressortis et que j'ai essayé de mettre en avant. J'ai pas vraiment eu à le faire de façon volontariste parce que c'était dans les rushs, mais ce qui, moi, m'avait sauté aux yeux et apparaît dans le film, c'est que cette vitalité, cette inventivité, cette façon de prendre en main leur destin et que je trouvais vraiment intéressante et que peut-être moi, j'avais pas vu dans d'autres films où, bien sûr, il y avait toute la partie média qui diabolisait les Gilets jaunes, mais même quand les films étaient plutôt favorables aux Gilets jaunes, on était souvent dans la victimisation, la déploration, la plainte, les fins de mois, etc. Et moi, ce que je voyais sur le rond-point, c'était bien plus que ça.
Delphine, Patrick, j'imagine que vous n'avez pas encore vu ce film-là, Quartier Général, mais peut-être vous en avez vu d'autres documentaires qui ont été faits sur les Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous retenez de l'image maintenant qui est donnée des Gilets jaunes? Alors, dans les médias, on en parle moins, mais peut-être dans ce qui continue à circuler comme documentaire ou autre, et qu'est-ce qui vous semble être fidèle ou pas à ce que vous avez vécu comme expérience au moment du mouvement? Delphine?
Alors,
personnellement, moi j'ai vu celui que j'ai vu, oui, il colle vraiment. C'était Je veux du soleil. Et je me
suis. C'est François Ruffin.
Voilà. Et je me suis vraiment retrouvée dans certaines scènes, dans certains moments, avec certains intervenants dans ce film. Ouais, c'était vraiment. Il nous a un petit peu retourné. On était sur le rond-point de Saint-André à ce moment-là, de Saint-André de Cubzac. Mmh. Ouais, ça nous collait bien à l'époque. C'était vraiment ça. Mmh. C'était vraiment la vie sur le rond-point, et c'était. C'était ça, ça nous collait bien à la peau. Mmh. Aujourd'hui, de ce que les médias, ils parlent plus de nous, donc en même c'est temps, voilà. Par contre, on est, s'il y a comme là Quartier Général, ouais, forcément que si on voit des films qui parlent de nous, on va les voir et on va soutenir ce genre d'initiative, parce que il faut pas que ça, il faut qu'on continue de parler de nous, mmh. Voilà.
Patrick, un dernier mot.
Oui, tout à fait. Donc, que rajouter d'après Delphine, c'est surtout ça. Mais il est clair que, je pense que c'est une volonté aussi des grands médias de ne pas parler de nous, quoi, parce qu'ils savent très bien qu'on est dessous. Et je salue justement ce film-là qu'il faut promouvoir, qu'il faut aider, justement pour continuer notre histoire, quoi.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux, Patrick et Delphine. Merci à Nathalie Loubeir, donc la réalisatrice de ce film Quartier Général, qui nous a quittés pour les manger avant de reprendre les sessions cet après-midi. Donc le documentaire Quartier Général, il sera projeté à 20h30 à l'Utopia à Bordeaux. Et puis avant ça, toute l'après-midi, le colloque continue aux archives départementales. Il va être question, il va y avoir en tout cas des interventions de l'historienne Ludivine Bantini, de Guillaume Gourgue, qui est maître de conférence en sciences politiques sur justement la médiatisation des gilets jaunes. Pascal Marchand sera là, Maximilien Gidon, et puis voilà, plein de choses jusqu'à 19h aujourd'hui aux archives départementales, et puis ça continue demain jeudi au musée d'Aquitaine à partir de 9h et jusqu'à 19h, il y aura une soirée demain soir à la librairie N'a qu'un œil, rue Bouquière à Bordeaux, autour d'une expo photo et de lecture performative de crieurs de rue. Voilà pour ce qui est de ce colloque, et on va finir avec un peu de chanson encore une fois autour des gilets jaunes.
Marche ou crève, marche ou crève.
arrive à la fin du plat de résistance pour aujourd'hui. La suite des programmes sur notre antenne, sera à 14h la voix off sur la question de l'eau, à 15h Bordeaux Blues, à 17h Acétone et puis à 19h l'autre parloir. Tout de suite, c'est le guide du Bordeaux colonial avec son invité spécial Eri De Luca, l'auteur, l'écrivain italien. On se retrouve de notre côté demain midi pour un nouveau plat de résistance en direct du colloque sur les gilets jaunes au musée d'Aquitaine. Bonne journée sur notre écoute. Bonne journée à l'écoute de la Clé des Ondes plutôt.